Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Nous allons parler justement en cette journée de la fête des travailleurs, en ce 1er mai. Nous allons parler en deuxième heure d'émission de l'augmentation du salaire minimum. Vous savez qu'il vient de passer aujourd'hui à 12,50 $. Puis je vais vous poser la question. J'ai très hâte d'entendre vos témoignages tout à l'heure. Est-ce que vous travaillez au salaire minimum? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette augmentation? C'est l'équivalent de, pour quelqu'un qui travaille 40 heures semaine, de 20 $. Donc, est-ce que ce 20 $ de plus par semaine, c'est un jeu suffisant pour avoir un petit impact dans votre vie? Et aussi, est-ce que vous travailleriez à ce salaire-là? Si vous êtes en ce moment sans emploi, est-ce que c'est le genre de choses qui peut vous inciter à retourner sur le marché du travail? On aura cette conversation tout à l'heure. J'aurai également des jeunes qui vont être là puis qui vont nous dire comment ils voient ça, ce salaire minimum. Il y en a beaucoup qui disent, hey, 12,5 $. 12 $ ou 12,5 $, c'est la même affaire, puis ça me tente pas trop de travailler à ce salaire-là. Surtout quand on sait que le salaire médian au Québec, c'est à peu près le double. Donc, il y a quand même une marge importante entre les deux. En première heure d'émission, ben écoutez, l'actualité vient de nous aider avec notre premier sujet parce qu'on voulait parler de l'encadrement du travail des ce qu'on appelle les IPS, c'est-à-dire les infirmières praticiennes spécialisées, des infirmières qu'on appelle aussi les super infirmières, celles qui ont fait un bac, une maîtrise pour mieux travailler de concert avec le médecin. On a appris il y a quelques jours que ces infirmières, ces IPS sont encadrées, surveillé entre guillemets par un médecin qui est payé 62 000 $ dans des cabinets privés, beaucoup moins au public, mais quand même il y a un travail de supervision qui est payé. Et il y a une étude qui est sortie d'ailleurs pour nous dire que sincèrement cet argent-là qui finit par être plusieurs centaines de millions au bout de la ligne, il devrait être mieux utilisé. Puis les infirmières IPS n'ont pas besoin d'être encadrées. On va parler avec l'auteur de l'étude qui est avec nous, Anne Plourde. Merci d'être là, vous êtes chercheuse à l'IRIS.
Bonjour.
Merci. Vous me permettrez toutefois, Anne, de présenter également le Dr Louis Godin, qui est président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Bonjour, Dr Godin.
Oui, bonjour.
Merci d'être là. Et Christine Laliberté, qui est présidente de l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec. Bonjour, Madame Laliberté.
Oui, bonjour.
Et là, je vous sors presque d'une conférence de presse où on vient d'annoncer, finalement, ça vient de tomber, c'est tout chaud. En fait, c'est vraiment dans un élan, dans un élan d'ouverture assez étonnant, et peut-être que ça fera école dans les prochains jours. Mais le Collège des médecins du Québec vient de suggérer clairement que c'est à l'ordre des infirmières et infirmiers du Québec que revient la responsabilité de superviser les IPS. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction, là? À chaud, ça vient de sortir, cette nouvelle.
Oui, bien, c'est une excellente nouvelle, en fait, de savoir que c'est notre propre ordre professionnel qui va gérer tout ce qui est en cours à l'infirmière praticienne. C'est une bonne nouvelle aussi parce qu'il y a une ouverture maintenant aussi à poser les diagnostics. Il y a un gros travail là qui va se faire dans la prochaine année, mais pour autant pour la population que pour les professionnels de la santé, ça va faire un changement majeur sur l'offre de services qu'on va pouvoir faire.
Pourquoi vous pensez que le Collège des médecins finit par se laver les mains de l'encadrement? Là, c'est un peu ça, de dire, regardez, on va laisser ça à l'ordre des infirmiers, infirmières. Nous autres, on se retire de ça. Est-ce que c'était comme une patate chaude un peu pour eux?
En fait, je pourrais laisser M. Gaudreau répondre à cette question, mais je pense que la bonne nouvelle là-dedans, c'est l'évolution du dossier. Vous le savez, hein, ça fait plusieurs années qu'on travaille au dossier, qu'on tente de faire reconnaître le rôle et les responsabilités de l'infirmière praticienne au Québec. Donc, c'est un grand changement pour nous. Puis, je pense que c'est l'aboutissement. Tout le monde était rendu là, je crois. Logiquement, là, par l'offre de service, on n'avait pas le choix. Il fallait y aller, sinon ça devenait un non-sens. Et c'est bon de voir que tout le monde a cette ouverture-là simultanément et qu'on puisse voir ça vivre à partir d'aujourd'hui. C'est une grande, grande différence pour nous. Clairement, ça va prendre à peu près un an pour le concrétiser, mais c'est pas grave. Je pense qu'on a la patience d'attendre que tout soit bien préparé, mais on est prêts, nous, à aller de l'avant.
Oui. Anne Plourde, bien sûr, je disais que vous étiez chercheuse à l'IRIS qui s'intéresse justement à toutes ces questions de santé. Vous êtes l'auteur de cette étude qui a été publiée jeudi dernier, où vous suggériez fortement de laisser tomber pour les médecins cet encadrement. Vous disiez dans votre étude, en gros, c'est pas nécessaire. Puis c'est de l'argent qu'on donne aux médecins qu'on devrait plutôt utiliser pour d'autres choses.
Oui, effectivement. Ben, en fait, là, on apprend tout juste cette grande nouvelle. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment positif pour, ben, avant tout pour la population. Là, je pense que ça va faciliter, ça va favoriser un meilleur accès aux soins en donnant une plus grande autonomie aux super infirmières, aux infirmières praticiennes spécialisées.
C'est ça. C'est un peu la conclusion de votre étude, finalement.
Ben, effectivement. Nous, c'est ce qu'on recommande. C'était une de nos principales recommandations. Ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on recommande. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, il va falloir voir ce que ça veut dire pour ce qui est de la rémunération des médecins qui étaient associés à cette surveillance médicale-là. Faudra voir comment va se renégocier la collaboration entre les médecins et les infirmières praticiennes spécialisées, parce que pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que ça coûte cher, cette surveillance médicale-là, des super infirmières, des infirmières praticiennes spécialisées par les médecins.
On a entendu parler d'un chiffre de 62 000 $. Ça a fait beaucoup réagir les contribuables, les patients, et en même temps, ça fait beaucoup réagir aussi des médecins. Évidemment, 62 000, ça, c'est dans des cabinets privés, d'après ce que j'ai compris. Oui. Au public, c'est un autre montant.
Au public, c'est plutôt 11 000 $ par année. Mais là, faut dire que ce 62 000 $-là...
Pourquoi il y a un écart comme ça entre le privé puis le public?
Ce 62 000 $-là, il se décompose en deux principaux sources de rémunération pour les médecins. Il y a d'abord un 32 000 $ qui est directement pour la surveillance des infirmières par les médecins. Donc, les médecins sont payés pour cette surveillance-là. Et il y a un autre 30 000 $ qui vise plutôt à couvrir les frais d'exploitation en clinique privée des médecins qui accueillent les IPS dans leur clinique. Et il faut savoir aussi que au niveau de la surveillance des IPS, les médecins en clinique privée sont payés trois fois plus cher environ que les médecins en clinique en établissement public, aussi pour couvrir leurs frais d'exploitation.
Et le fait que par exemple le Collège des médecins depuis ce matin le dise, ok, ben désormais on est d'accord, ça va être l'ordre des infirmiers et infirmières qui vont s'occuper de gérer les IPS. Est-ce que ça va éviter qu'on donne cet argent-là aux médecins?
Ben là, on n'a pas tellement d'informations très spécifiques là sur concrètement comment ça va s'opérationnaliser tout ça. On ne sait pas encore dans quelle mesure ça va vouloir dire que parce que là, ce qu'on sait, c'est que le Collège des médecins ne mettra plus de directives en ce qui concerne la façon dont les IPS exercent leur profession. Mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce que les médecins vont encore continuer sur le terrain, de surveiller les infirmières et d'être payés pour le faire.
Ouais, ça tombe bien parce qu'on a Dr. Louis Godin, qui est président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Dr. Godin, vous en pensez quoi de cette nouvelle que finalement le Collège des médecins dit que les infirmiers et infirmières se gèrent entre elles, finalement?
Bon, écoutez, ça, c'est une décision du collège, là.
Êtes-vous d'accord avec ça?
Bon, écoutez, je pense que c'est un débat, là, qui durait depuis déjà un certain temps. Et on se retrouvait toujours dans une situation où on devait revenir sur la situation. Ce qui est annoncé ce matin, c'est que le collège a demandé à la ministre d'encadrer légalement exactement ce qui allait se passer, que ça ne se ferait plus via la loi médicale, que ça se ferait via l'ordre des infirmières, avec des processus de contrôle de la qualité,
mais moi,
de
ce que je
certification,
comprends, c'est que
etc.
C'est que le collège dit, ben nous, on ne veut plus se mêler de ça. Là.
Bon, ça veut dire un peu ça. Là,
ouais. Est-ce que c'était devenu une patate chaude pour les médecins?
Bon, écoutez, je ne vous cacherai pas que du côté des médecins, ce débat-là qui n'en finit plus là, sur le champ d'activité, à un moment donné, il faut que ça se termine. Parce que
Ça
mine les relations sur le terrain. Parce que contrairement souvent à ce que les gens pensent, les médecins, là, ça fait 10 ans à peu près qu'ils travaillent avec les IPS. Ça va très bien. Tout le monde s'entend très bien. Tout le monde comprend le rôle de chacun. On a vraiment été capable d'installer un climat d'échange, de collaboration, de partage de l'information. Et on revient beaucoup en disant c'est la surveillance, le médecin a l'œil au-dessus de l'épaule de l'IPS. C'est pas le cas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est des professionnels qui travaillent ensemble. Les IPS ont leurs patients, qui sont souvent les mêmes patients que les médecins, parce que souvent, c'est des gens qui ont différentes pathologies. Et on a eu une expérience sur le terrain. On a parlé beaucoup de surveillance, parce que c'était ça il y a 10 ans. C'est ça qu'on devait faire. Dans les faits, c'est des échanges, communication, discussion de cas, information de part et d'autre sur les patients. Et
Mais pourquoi les médecins sont payés pour ça?
Parce que c'est du temps médecin. C'est du temps médecin. Lorsque je m'assois avec
l'IPS... 62 000 $ au privé, là, c'est pas rien.
Non, mais là, on va départager qu'est-ce qui est dans le 62 000? Parce qu'il y a une partie, c'est pour la surveillance, c'est pour ce qu'on appelait la surveillance, mais qui est en fait la rémunération pour la partie du médecin dans le travail interprofessionnel.
Ça, c'est 32 000 sur
le
62.
C'est 32 000 $. Et l'autre partie, c'est la fameuse question des frais de pratique.
30 000 $.
Oui, ouais. C'est ce que ça coûte pour qu'une IPS puisse venir travailler dans un bureau. Parce que là, ce qu'on dit, non, les médecins, les frais de pratique sont couverts dans leurs honoraires. Il faut départager ça, là. On va partir du départ. Lorsque vous êtes un médecin, vous pratiquez, vous avez dans un horaire une partie d'argent qui sert à payer vos frais de pratique à vous comme médecin. Lorsque j'accueille une IPS qui travaille à temps plein dans mon bureau, elle vient, on lui offre le même environnement professionnel et administratif qu'un médecin. Elle a son bureau. On a besoin de personnel pour recevoir ses patients. J'ai une structure informatique. Il faut que je chauffe, j'éclaire, etc.
Non, mais c'est le même personnel. Là. Je ne peux pas croire que vous ne faites pas des économies d'échelle.
Ben, écoutez, parce que
30 000 $ de bureau, de frais de bureau, c'est quand même beaucoup. Là.
C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Demandez à des gens, puis vous le mentionnez en votre début d'émission, demandez à des médecins qui exploitent des cliniques médicales. Ouais. J'en ai exploité là, avant d'être président de la Fédération. J'étais propriétaire d'une clinique médicale et il y a de ça 12 ans, ça coûtait déjà plus que 30 000 $ par médecin.
Mais les médecins, puis j'en ai là qui me... Puis d'ailleurs, j'en profite pour dire aux médecins qui nous écoutent, si vous avez le temps de nous appeler puis de témoigner de ça, faites-le avec plaisir. On écoutera ce que vous avez à dire là-dessus. 514-790-9850. Partout au Québec, 1-866-790-9850. Si on a des infirmières, des super infirmières pareillement, puis plus largement... personnel médical, là, parce qu'on parle de ça, on parle de santé ce matin et du travail de chacun là-dedans dans un but finalement de mieux organiser notre système pour qu'il y ait un plus grand nombre de patients au Québec qui aient accès au système-là. Moi, quand je regarde ça, je me dis, ben quand le médecin surveille l'IPS, la super infirmière, ben il fait pas d'autre chose. Fait que je comprends que, d'ailleurs, si on y donne 32 000 $ dans un contexte de clinique privée, c'est toujours bien qu'on estime qu'il doit travailler pour le 32 000.
Tout à fait.
Ça fait beaucoup de travail que là, vous aurez pu à faire en théorie.
Ben, faut faire attention parce que
l'IPS vient vous soulager, finalement.
J'écoutais la conférence de presse ce matin et autant de la part du ministre que le président de l'Ordre des infirmières, que le président du collège est revenu continuellement sur le mot collaboration. Il faudra continuer en collaboration.
C'est sûr.
Et quand tu regardes c'est quoi qui doit être la collaboration, l'élément central autour de ça, c'est toujours la communication et les échanges entre les professionnels. Donc, vous avez, on va avoir dans des bureaux, parce que la ministre a encore dit, et ça, je pense, c'est une bonne nouvelle, les IPS vont travailler encore dans les groupes de médecine familiale. C'est le modèle qu'on préconise. Donc, les médecins vont avoir à échanger avec l'IPS pour leurs patients, comme l'IPS va avoir à échanger avec le médecin pour ses patients dans différentes situations, il y a du temps là-dedans. On convient qu'il y a du temps médecin. Le médecin n'est pas rémunéré dans la structure actuelle pour ce temps-là et c'est le forfait de surveillance qui servait à payer ça à l'intérieur de ça.
Donc, il était rémunéré.
Il était. Je ne vous dis pas qu'il ne l'était pas. Il l'était par le forfait de surveillance.
Allez-vous le laisser aller, le forfait de surveillance?
Là, écoutez, on va regarder la situation, mais c'est clair que...
Mais là, si vous n'avez plus à surveiller que c'est l'ordre qui le fait...
Mais oui, mais on va avoir... attention, là, dans les faits, la surveillance était beaucoup plus les échanges interprofessionnels. C'était beaucoup plus ça. Ce n'était pas le regard du médecin au-delà de l'épaule de l'infirmière praticienne spécialisée pour voir est-ce que tu fais tout correctement, c'est moi qui te contrôle. Dans la réalité, lorsqu'on interroge les médecins qui faisaient ça, ce n'était pas ça. Ouais. Donc,
on va
ils étaient
les
rémunérés de cette façon-là. Et donc, il est clair que s'il y a encore du travail à faire en ce sens-là, et on est convaincu qu'il y en aura, il y aura une rémunération pour les médecins.
Oui. On doit s'arrêter ici, bien sûr, mes invités. Christine Laliberté, présidente de l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec, des IPS, reste avec nous. Anne Plourde également, celle qui a signé cette étude où on conseillait fortement, d'ailleurs, au gouvernement de laisser tomber la surveillance et l'encadrement par les médecins des IPS qui sont formés, qui ont une maîtrise. Et apparemment que nos IPS au Québec sont les plus formés au Canada.
Donc, effectivement, les IPS sont au Québec les mieux formés au Canada et c'est les seuls qui, avec à l'aide du prince Édouard, là, qui doivent encore être surveillés par les médecins.
Alors qu'elles sont mieux formées.
Alors qu'elles sont mieux formées qu'ailleurs.
Docteur Godin reste avec nous. Va se joindre à la discussion un médecin après la pause et des infirmières également qui auraient envie de nous raconter. J'en ai une, entre autres, là, qui va nous parler, qui estime qu'elle, que c'était plus intéressant d'être infirmière praticienne dans le contexte actuel parce qu'elle se sentait trop encadrée, trop surveillée par des médecins. Et bien sûr, vos commentaires, 514-790-9850. Comment vous pensez qu'on peut améliorer le système de santé pour que tout le monde travaille ensemble puis qu'en bout de ligne, ça soit nous, le patient, qui puissions bénéficier d'un meilleur accès aux soins? C'est notre discussion ce matin, c'est d'essayer d'améliorer le système puis de le faire à des coûts qu'on est capable de contrôler puis qui vont pas toujours aux mêmes personnes qui se retrouvent souvent à être des médecins. 514-790-9850, 1-866-790-9850. Notre question, c'est est-ce qu'il faut vraiment payer des médecins plus de 60 000 $ par an pour surveiller des super infirmières? Tout le débat sur les super infirmières depuis plusieurs années au Québec tourne autour justement de l'encadrement du travail et aussi de la difficulté d'en former. On sait qu'il y a encore des problèmes. Il n'y a pas longtemps, il y avait des problèmes même avec l'examen final. Il y aurait des super infirmières qui en ce moment attendent de passer leur examen final pour pouvoir pratiquer. On sait qu'on en a moins aussi des super infirmières au Québec qu'ailleurs au Canada. Puis pourtant, elles sont mieux formées. Bref, il y a tout ça. Surtout qu'on a conclu au fil des ans que les super infirmières, c'était un plus pour le système de santé, qu'elles venaient amener une offre qui était collaborative par rapport au travail du médecin qui est débordé, qui est plus capable de prendre plus de patients, à qui on demande toujours de remplir beaucoup de formulaires. Il y a comme une bureaucratie qu'on a de la misère à laisser aller. On est encore au fax au Québec. Il faut aller dans une clinique privée. Je pense qu'il y a une clinique privée. Vous me direz s'il y en a d'autres que vous en connaissez. Moi, j'en connais une qui envoie ça électroniquement. Mais sinon, c'est encore les maudits fax. On est en 2019. Bref, il y a bien des questions. Tout est lié, hein. Il n'y a pas que l'encadrement qui cause problème, bien sûr. Mais c'est sûr que quand on regarde les montants qui sont alloués, on se dit peut-être que cet argent-là pourrait servir à d'autres choses. Le docteur Simon-Pierre Landry est avec nous. Il est omnipraticien. Il est chef du département de l'urgence de l'hôpital Laurentien de Sainte-Agathe-des-Monts. Il est copropriétaire de la clinique médicale du Grand Tremblant. Il est aussi co-porte-parole du ROM, c'est-à-dire le regroupement des médecins omnipraticiens pour une médecine engagée. Bonjour, docteur Landry.
Hey, bon matin.
Vous, le travail, l'encadrement des IPS, vous en pensez quoi quand c'est rémunéré justement par le gouvernement? Vous êtes payé, vous, notamment en ce moment, pour encadrer des IPS?
Oui, ben en fait, juste pour recommencer, au niveau de ce qui s'est passé ce matin, qui est un pas vraiment dans la bonne direction, nous, notre regroupement, c'est un regroupement qui est non syndical et qui vise finalement à améliorer l'accessibilité aux patients aux soins de santé, parce qu'en faisant ça, ben ça va être beaucoup plus agréable pour les médecins de pratiquer. Donc, c'est sûr que nous, depuis 2014, depuis notre création, finalement, on milite justement pour que les IPS aient la pleine autonomie clinique. Donc, ce qu'on veut finalement, c'est que les IPS soient un peu comme un médecin de famille, voient leurs patients, et quand elles ont des questions, finalement, elles peuvent demander le médecin de famille en consultation. Donc, elles connaissent leurs limites. Elles sont régies finalement par l'OIIQ. Et c'est un peu finalement ce qui arrive. Donc, on est très heureux finalement du déblocage finalement de l'IPS qui va pouvoir agir en pleine autonomie clinique. Où est-ce qu'on est moins heureux, puis où est-ce qu'on est vraiment, honnêtement, fâché contre l'IRIS, là, c'est toute la mésinformation qui est amenée finalement par cette étude-là et qui induit la population en erreur. Donc, d'un côté, nous, on est super contents parce que on est en train de régler une... Vous avez parlé de patate chaude, mais nous, on parle carrément de dossiers qui pourrissaient.
Ouais.
Et puis là, un pas dans la bonne direction, on n'aura plus de dédoublement de tâches. Les IPS vont faire jusqu'au maximum de ce qu'ils sont capables de faire. Mais maintenant, c'est sûr que quand l'IRIS sort une étude qui est complètement, qui manque complètement de perspective, ben ça fait que les contribuables, comme vous le dites, sont choqués, puis je serais choqué si j'étais eux aussi d'apprendre qu'on serait payé 62 000 $ pour s'occuper des IPS, ce qui est faux.
Okay,
ce qui est faux. Ouais. Puis docteur Godin en a expliqué une partie. Et si finalement l'IRIS avait voulu faire une étude crédible, elle aurait dû finalement calculer combien ça coûterait avoir une IPS en CLSC. Et je suis sûr que le gouvernement fait un deal, fait un bargain, quand il donne 30 000 $ finalement aux cliniques privées pour offrir les services informatiques, offrir les services de secrétariat. Et justement, ce qu'il fait, c'est qu'il sous-contracte finalement les coûts qui seraient probablement égal ou sinon plus élevé en CLSC, et les médecins qui travaillent en CLSC, qui sont payés de l'heure, ben il faudrait les payer pareil quand l'IPS est pas capable d'aller jusqu'au bout de la consultation avec son patient.
Ah, mais docteur Landry, tous les gens là, les gens qui sont en PME, qui louent des bureaux au Québec, vont vous dire 30 belles piastres de frais d'exploitation de bureau là, c'est beaucoup là.
Ouais. Ben, moi, j'ouvre
mes livres. T'en payes des réceptionnistes, des cafétérias, du mobilier, c'est beaucoup d'argent, là.
Ouais. Vous avez raison. Et c'est important que la population comprenne combien ça coûte, le système de santé, effectivement. Et moi, j'invite les risques à venir voir mes livres dans ma clinique. Ils vont bien se rendre compte que le 30 000 $ il est très bien dépensé parce que c'est pas juste un bureau avec la lumière puis l'hydroélectricité, là. L'IPS, elle utilise du matériel informatique qu'il faut qu'on paie, nous, de notre poche. Le temps secrétarial aussi va être payé de notre poche. Il y a tous ces frais-là qui font en sorte que les cliniques, ils ne courent pas après des IPS pour remplir leur bureau. Là, si c'était si payant que ça, pensez-vous pas que les médecins gestionnaires puis les gens qui ont des cliniques, qui sont propriétaires des cliniques, ne courraient pas après les IPS? C'est plutôt le contraire qu'on observe. Ce qui arrive beaucoup, c'est des IPS qui ne se trouvent pas des milieux de pratique d'un point de vue clinique avec des médecins qui seraient comme prêts à donner de leur temps justement pour les aider dans leur pratique. Ouais. Puis aussi, ben des cliniques qui sont prêtes à, pour 30 000 $ finalement, leur faire une place. Donc, si c'était si payant que ça, là, il n'y aurait pas de misère à trouver des endroits. Mais en ce moment, il y a quand même une certaine misère aux IPS à se placer. Donc, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que il faut que la population comprenne que là, il y a une très, très bonne nouvelle ce matin. Finalement, les IPS on dédoublera plus le travail. Les IPS vont pouvoir pratiquer au maximum de leurs compétences.
Mais ça veut dire que les médecins n'auront plus droit aux primes d'encadrement, là. C'est ça aussi.
Ce qui va arriver, le gouvernement, là, puis je parle pas pour le gouvernement ici, là. Ce que je dis, c'est que le gouvernement, il n'aura pas le choix, finalement, de créer un tarif de consultation. C'est-à-dire que là, le médecin, en fait, quand l'IPS va être face à une situation clinique qu'elle ne sera pas capable de régler et qu'elle va avoir besoin de l'aide du médecin de famille, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire comme un médecin de famille qui demande en consultation à un médecin spécialiste, elle va faire une demande de consultation. Il va y avoir un tarif qui va être associé à ça. Et donc, c'est de
là l'importance
de dire...
Oh mon Dieu, c'est bien lourd, ça. Ouais. Ben, s'ils sont dans le même bureau, dans la même clinique, puis qu'on dit qu'on fait des économies d'échelle à faire des équipes soignantes, des équipes médicales, on n'arrête pas de nous beurrer avec les équipes médecins, infirmières, IPS, tout ça. Là. Puis c'est ça tout le concept du GMF, du groupe de médecins de famille, c'est de dire on va tout avoir au même endroit, tout le monde va se parler, on va se croiser dans les bureaux, on va tous travailler de façon collégiale. Là, il va falloir faire des demandes de consultation de l'IPS aux médecins.
C'est une question non seulement médico-légale, parce que nous, au Rome, on voyait d'un bon œil même, justement, qu'elle ait la pleine autonomie, parce qu'on ne voulait pas être mêlés, finalement, médico-légalement, à certaines décisions qui sont prises par les IPS. Je m'explique.
Ouais.
Il ne faut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Il faut qu'il y ait un capitaine, puis quand le capitaine a besoin d'un autre capitaine qui a une autre formation pour conduire le bateau dans le fleuve Saint-Laurent, ben il y a un autre capitaine qui monte sur le bateau puis qui le conduit le bateau.
Je comprends. Docteur Landry, retenez ça. Oui. On est toujours dans le bateau sur le fleuve, mais on va revenir après la pause parce que là, il faut absolument que j'aille à la pause. Au retour, j'ai une infirmière qui va nous expliquer comment elle a vécu ça, cet encadrement du médecin, l'espèce de regard toujours au-dessus de l'épaule. Elle trouvait ça bien fatigant. Et aussi, bien des gens veulent intervenir. On va donner la parole à tout le monde. Et bien sûr, la réaction d'Anne Plourde qui a écrit cette étude que vous attaquez vertement. Donc, bien sûr, Anne pourra réagir à ça tout de suite. Ben des affaires après la pause. Nathalie Stacquier-Doucet fait un doctorat en sciences infirmières. Elle est chercheure en sciences infirmières également. Elle a pratiqué à plusieurs endroits au Québec. Elle est infirmière à Montréal. Elle prend quelques minutes pour nous parler de cette pratique infirmière qui s'est avérée assez contraignante pour vous, Nathalie, notamment parce que vous disiez, je me sens tout le temps, regarder, observer. Parlez-moi un peu de ça. Là. Vous êtes, évidemment, je précise, vous n'êtes pas une IPS, vous n'êtes pas une infirmière spécialisée, mais vous êtes une infirmière praticienne, clinicienne.
Oui, je suis infirmière. J'ai été infirmière plusieurs années dans le réseau. Mais mon expérience vient surtout de ma participation à des projets de recherche de la chaire de recherche pour laquelle... avec laquelle je collabore à POCOSA, Politique Connaissance Santé, qui a fait beaucoup, beaucoup de travail sur le rôle des infirmières praticiennes spécialisées. Et dont on voit vraiment au Québec, on avait jusqu'à ce matin, en fait, donc c'est une très bonne nouvelle qu'on a eue ce matin, mais qu'on avait vraiment énormément de retard sur le reste du Canada et les États-Unis. Donc, le problème avec qu'est-ce qu'on avait ici au Québec, c'est que la supervision complètement pas du tout nécessaire. On forme des infirmières praticiennes spécialisées ici au Québec qui sont capables d'être autonomes, qui ont les compétences pour travailler de façon autonome, mais on ne reconnaît pas ces compétences-là une fois qu'elles entrent dans le marché du travail. Donc ouais. ça mine l'autonomie, ça peut potentiellement miner le moral aussi des infirmières praticiennes spécialisées. Et à long terme, ce que ça fait, c'est que si on n'utilise pas les compétences de notre personnel, bien, éventuellement, on s'organise pour qu'elles les perdent. Donc, c'est important de respecter les compétences des professionnels de soins à ce à quoi elles sont formées pour s'assurer qu'elles les maintiennent et qu'elles les développent.
Là, on est en train de dire, bon, là, le Collège des médecins dit, parfait, ça va être l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec qui va encadrer la réglementation, les rôles, les conditions d'exercice des super infirmières. Mais là, on sent déjà que les médecins disent, ouais, mais un instant, ça ne veut pas dire qu'on ne recevra plus rien. On semble dire, ça va dépendre de comment on va voir notre rôle, mais il ne reste pas moins qu'il faudra désormais, probablement, le docteur Landry nous disait ça avant la pause, il faudra probablement quand même faire une demande de consultation de l'IPS vers le médecin. Donc, il y aura là un acte médical, pour, en tout cas, pas médical, mais administratif du médical posé, comme une espèce d'avis de consultation, donc qui aura un coût également. Donc, on revient quand même à dire, mais il y aura encore des fonds publics d'utiliser. Puis vous disiez, vous m'avez déjà dit, Nathalie, quand un médecin fait une clinique de vaccination le samedi, qui est là pour superviser l'IPS, mais que c'est elle qui vaccine, vous dites ça, ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'on va encore avoir ce genre de pratique? Comment vous voyez ça?
Ça, en fait, c'était lié à une histoire connue là, qui est sortie il y a quelques années d'une clinique à Longueuil qui avait fait ça. Et c'était pas une IPS qui vaccinait, c'était une infirmière clinicienne. Ouais. Donc, même pas une infirmière praticienne spécialisée. Donc, le point principal avec ça, c'est que tous les professionnels au Québec devraient travailler au maximum de leur capacité. Donc, c'est ça qui serait le plus efficace pour notre système de santé et c'est ça qui nous donnerait aussi le plus de potentiellement le plus de services pour notre argent.
Si sans avoir toujours habilé, finalement, c'est ça que vous dites, là.
Exactement. Donc, une IPS pourrait faire une demande de consultation à un médecin de famille, mais à même titre qu'une infirmière praticienne spécialisée pourrait faire une demande de consulte en nutrition avec un psychologue, avec toute l'équipe interdisciplinaire qui s'occupe du patient qu'elle a devant elle. Donc, le fait de plus être supervisée, elle va avoir beaucoup plus d'autonomie dans qui elle va aller chercher, qui elle considère dont elle a le plus de besoin pour développer le plan de traitement du patient, comment elle va impliquer l'équipe interdisciplinaire, etc. Donc, ça reste une excellente nouvelle. Maintenant, sur la question de la rémunération des médecins, ben là, ça, c'est une question beaucoup plus large sur, au Québec, comment on décide de rémunérer les médecins, les actes médicaux, etc. Donc, ici, au Québec, on fait la rémunération à l'acte. Donc, ça, c'est, je pense, une question qui est probablement séparée, mais sur lesquelles on pourrait parler longuement. Très longtemps.
Merci, Nathalie. Je vous laisse retourner auprès de vos patients. Nathalie Stacquet-Doucet. Avec nous également, Nancy, qui nous appelle, qui est une IPS. Bonjour, Nancy.
Oui, bonjour.
On vous écoute. Qu'est-ce que vous pensez de ça ce matin? Là, vous avez appris que finalement, ça allait être votre ordre professionnel qui allait désormais vous encadrer, non plus le médecin. Donc, je pense que l'attitude qui pouvait sembler paternaliste, on vient de la laisser tomber. Donc, on comprend que c'est une bonne nouvelle pour vous. En même temps, est-ce que vous croyez que ça va être dans les faits, là, dans votre pratique au quotidien? Ça, c'est des changements de mentalité, là. C'est ça que ça sous-entend aussi.
Oui, tout à fait. Moi, je travaille dans un GMF, dans un CLSC, donc je suis au public. Et puis, ça fait depuis 2009. Et en fait, je voulais préciser par rapport à la rémunération. Comme Dr Godin disait tout à l'heure, on va repartir du début. Ouais. Moi, comme IPS, quand je suis engagée dans une clinique, je signe une entente, une lettre 229, une entente en fait pour la rémunération des médecins. Donc, moi j'ai 5 médecins partenaires, les 5 médecins signent la lettre avec moi, ce qui leur permet de recevoir leur forfait là qu'on appelait de supervision. Mais en fait, c'est des forfaits de discussion parce que comme on a des discussions de cas avec les médecins.
Puis ça se passait bien? Est-ce que le médecin passait beaucoup de temps à discuter avec vous sur différents cas?
Bien, disons que c'est un irritant parce que dans notre travail au quotidien, ça nous retarde. Si je dois aller parler avec un médecin d'un patient, ça me retarde dans mon horaire, ça retarde le médecin dans son horaire aussi.
Mais c'est le médecin qui voulait vous en parler ou c'est vous qui vouliez en parler au médecin?
Bien, c'est-à-dire que selon nos lignes directrices, quand le cas dépasse notre champ de compétences, on doit aller discuter avec le médecin. Ouais. Donc, nos lignes directrices...
Ça, c'est normal. Ça, c'est un peu normal.
Étant restreignantes, ouais. Ça nous amenait souvent à discuter. En fait, ce que je voulais préciser, c'est que, comme l'autre intervenant, l'autre médecin a parlé du rhum, ce qui serait mieux, c'est que quand moi, je dépasse mon champ de pratique, c'est que à ce moment-là, je réfère le patient au médecin.
Okay,
mais quand le médecin voit le patient, il devrait charger seulement son forfait de consultation à chaque fois, comme quand il voit un patient normalement lui-même ouais. dans son bureau. Je vois pas pourquoi il devrait charger un forfait de plus parce que c'est une IPS qui lui réfère ouais, le patient.
Ouais. Puis là, je comprends que c'est que vous êtes limité, vous êtes obligé de parler au médecin parce que c'est pas votre compétence là, qui est dépassée, c'est votre champ de pratique. Et le champ de pratique, on a appris il y a quelque temps
oui.
qu'il venait
d'être... s'améliorer.
Il va s'améliorer, il va mais on a de la misère à l'ouvrir. Là. On a permis oui. quelques actes médicaux qui sont relativement simples. Mais c'est le champ de pratique qui vous limite puis qui fait que vous êtes obligé toujours, dès que ça dépasse un peu plus ce champ-là, non pas de compétences, mais de pratique, même si vous aviez la compétence, vous seriez obligé d'aller voir le médecin pareil. Je comprends ça. Merci,
tout à
Nancy.
Fait, c'est ça.
Je vais demander à Anne Plourde, qui a fait cette étude, qui a été tout à l'heure attaquée vertement par le Dr Landry, de réagir à toute notre discussion, puis surtout à ce que disait le Dr Landry tout à l'heure.
D'abord, je voudrais revenir sur la question de la surveillance. Là, Monsieur Godin parle beaucoup de collaboration interprofessionnelle. Puis évidemment, nous, on pense que la collaboration interprofessionnelle, le travail d'équipe, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qu'il faut se faire, qui doit se faire. Mais dans le cas des médecins avec les IPS, c'est clairement de la surveillance. Et ça, c'est les lignes directrices les plus récentes qui ont été émises par son ordre professionnel en 2018, qui sont très claires sur le fait que les médecins doivent surveiller les IPS, y compris réviser les dossiers des patients. Et des patients suivis par les IPS, y compris réviser leurs prescriptions. J'ai les mots pour mots ici devant moi. Et en ce qui concerne les frais d'exploitation dont parlait le Dr Landry tantôt, le 30 000 $ nous, il parle de désinformation, mais en fait, on a été conservateurs dans nos chiffres parce qu'on s'est limité au 30 000 $ qui est destiné aux IPS, alors que dans les faits, d'abord, les médecins en clinique privée sont payés à l'acte de manière beaucoup plus élevée que les médecins en clinique en établissement public, justement pour couvrir leurs frais d'exploitation. Et en plus, les médecins qui travaillent en GMF, où sont déployés la plupart des infirmières praticiennes spécialisées, reçoivent des subventions considérables. D'abord, une subvention de départ qui est de 40 000 $ pour aménager leurs locaux, pour être en mesure justement de recevoir d'autres professionnels. Et en plus, les médecins en GMF reçoivent aussi des subventions annuelles récurrentes qui peuvent aller jusqu'à 300 000 $ par année. C'est entre 100 000 et 300 000 $ par année que les médecins reçoivent en GMF pour couvrir leurs frais d'exploitation, ce qui inclut, et je cite, l'achat de mobilier et le coût de location des espaces requis pour accueillir le personnel administratif et professionnel embauché par le GMF ou alloué par le CIS et le CIUS. Donc, ces frais d'exploitation-là sont déjà couverts par des sommes considérables. Ouais.
Mais là, ouais. il faudrait...
Docteur Godin et Docteur Landry.
C'est important là, ouais. de remettre les choses là, vraiment en perspective. Là. Lorsque vous dites que dans le programme GMF, il y a des subventions de 10 000, de 100 000 à, 2, à 300 000 $ c'est vrai. Dites cependant aussi que vient avec ça 2 à 10 professionnels que tu dois installer dans ton bureau, créer un environnement où ils puissent travailler physiquement.
Non, mais c'est pour s'assurer
ça. Mais c'est pour ça qu'ils reçoivent le 100 000 à 300 000 $
justement. C'est en plus, je veux dire, des frais que le médecin a à couvrir pour l'installation de sa pratique à
oui,
lui.
Oui, mais ça, c'est couvert par ses frais de rémunération.
Et je pense que qu'est-ce que vous auriez dû faire, en tout respect, c'est aller interroger des groupes de médecine familiale, des gens qui sont gestionnaires, et ils vous arrêtent démontrer, et le docteur Landry vous l'a offert.
Je suis vraiment contente que vous
d'aller
parliez
voir,
de ça.
D'aller voir qu'est-ce que ça coûte vraiment. J'ai opéré une clinique médicale pendant de nombreuses années, et je peux vous dire que 30 000 $ pour loger un professionnel, que ce soit une infirmière ou un médecin, c'est minimalement ce que ça coûte actuellement
Monsieur
à l'intérieur
Godin,
de
si
ça.
Vos membres,
et je me permets oui, aussi un
Anne,
autre commentaire.
Oui, peut-être juste parce qu'il faut aller à la
Monsieur
pause.
Godin, si vos membres sont d'accord pour... Monsieur Godin, si vos membres sont d'accord pour ouvrir leur livre et me laisser aller faire une étude pour connaître exactement leurs frais d'exploitation, je vais être ravie de le faire pour
mais,
vous.
Mais pourquoi on ne peut pas faire ça?
Parce que
c'est les gens qui payent.
Parce
que les contribuables.
Ce sont des cliniques privées. Parce que, Monsieur Godin, ce sont des cliniques privées pour lesquelles il n'y a aucune transparence dans la gestion. On dépense des millions de dollars, des dizaines de millions de dollars qu'on donne à ces cliniques-là, les GMF. Et il n'y a aucune transparence dans la gestion. Ces cliniques-là sont gérées par les médecins et il n'y a a aucun moyen pour les chercheurs et les chercheuses d'avoir accès aux chiffres et de connaître exactement quels sont leurs frais d'exploitation. Et
donc, on est obligé, payé par le public,
payé entièrement financé par le public, et on est obligé de se fier aux médecins pour nous dire que ces frais-là sont justifiés. Si ces frais-là sont justifiés, ben qu'ils nous ouvrent leur livre. Moi, ça va me faire plaisir d'aller voir.
Parfait. On va aller à la pause. Alors, un petit résumé de ce que je reçois de la part des contribuables qui sont aussi parfois malades et donc patients de notre système de santé. Il y a eux qui me disent, encore une fois, le médecin est plus inquiet de ses revenus apparemment que des soins aux patients. Son ami qui est réparateur de vélo, qui a une entreprise, n'a pas eu de subvention, lui, pour démarrer son commerce. Ça, j'ai plusieurs fois ce commentaire-là. Il y a des entrepreneurs, des gens là, qui travaillent au salaire minimum, puis on va en parler après la pause, qui disent, ben nous, on n'a pas eu de subvention de démarrage d'entreprise ou pour maintenir des bureaux. Donc, ça, c'est en gros. J'aimerais faire réagir le Dr Landry, puis aussi Christine Laliberté, qui est présidente de l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec. Dr Landry, d'abord.
Oui, ben en fait, quand j'ai entendu Mme Plourde, finalement, ce que j'entends, c'est qu'elle vient d'admettre qu'elle n'avait pas accès aux données pour savoir combien que ça coûte rouler une clinique. Et elle aurait dû faire la vraie étude, là. Ça aurait été de sortir les données de combien ça coûte faire rouler un CLSC, qui est à gestion publique, et ensuite faire rouler une clinique qui est un sous-contractant dans un GMF. Moi, ce que je peux vous dire, là, personnellement, puis je ne ferai pas pleurer personne.
Non, mais je dois vous le dire que beaucoup de gens qui disent on ne pleurera pas pour les médecins ce matin.
Absolument. Puis je ne souhaite pas non plus qu'ils le fassent. Ça aurait été beaucoup plus profitable que je le mette dans mes REER. Mais ce que je suis en train de dire, finalement, là, c'est que oui, il faut de la transparence des GMF. D'ailleurs, dans le cadre GMF, il y a une obligation que toute la subvention soit dépensée en frais d'exploitation pour l'embauche de personnel et l'embauche de matériel. Et là, je veux faire une distinction avec les autres entrepreneurs qui ont un commerce, parce que c'est important, ça. Puis je leur lève mon chapeau, ils font un travail incroyable, les entrepreneurs qui ont des petites entreprises. C'est un monde qui est difficile.
OK, mais eux, pourquoi le médecin entrepreneur est privilégié?
Je vous explique. C'est parce que ça prend une subvention pour ces cliniques-là, parce que nous, contrairement à un entrepreneur qui a un commerce, on peut pas augmenter les tarifs quand un patient vient nous voir. C'est-à-dire que les tarifs sont fixés par l'État.
Non, mais vous avez des clients qui sont déjà... C'est magnifique, votre système, quand même. Quand on regarde ça d'un point de vue entrepreneur, moi, j'en ai eu une entreprise aussi. Si j'avais un client là, dont j'étais certaine qu'il allait jamais me laisser tomber, c'est comme un client qui va toujours être là, vous comprenez? Vous avez jamais...
8 milliards de dollars par année. Là.
Il va jamais vous lâcher. Votre client, vous êtes sûr qu'il va toujours vous payer. C'est magnifique.
Oui, mais en même temps, regardez, il y a des cliniques qui ferment actuellement. Il y a plus de cliniques qui ferment qu'ils ouvrent. Pourquoi?
Ben, je sais pas, moi, je suis tentée d'en ouvrir une quand je vois comment ça marche. Sérieux?
Mais ça, vous pouvez le faire. D'ailleurs, si vous arrivez à trouver des médecins en nombre suffisant pour payer les frais de bureau, ça va être excellent. Vous avez le droit de le faire.
Merci, Dr. Landry. Je veux absolument, il nous reste tellement peu de temps. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous parler. Vous n'êtes pas docteur, vous êtes IPS, Christine Laliberté. Je ne veux quand même pas augmenter à ce point votre champ de pratique. En conclusion, on termine notre tour de table. Il nous reste 2 minutes. On vous écoute.
Oui, ben écoutez, de mon
visiblement, il y a de la chicane dans la cabane. Visiblement, on n'a pas tout réglé non plus ce matin.
Ben moi, je pense que la vraie, de notre côté, là, la vraie chose à regarder, c'est où on va être capable justement d'aller optimiser le champ de compétences des infirmières praticiennes avec le changement qui s'en vient, c'est-à-dire pouvoir poser les diagnostics, augmenter notre niveau d'autonomie, diminuer les demandes de consultation non nécessaires envers nos médecins partenaires.
Ben là, mais justement là-dessus spécifiquement, ce que j'entends des médecins, c'est qu'il va falloir désormais peut-être faire plus d'avis de consultation de l'IPS vers le médecin. Puis ça sera chargé.
En fait, d'après moi, il n'y aura pas plus de consultations. Il va en avoir beaucoup moins. Pour ce qui est des forfaits puis tout ce qui touche la rémunération, on sait que la ministre est à évaluer ça. Elle va pouvoir en discuter avec M. Godin. Moi, de mon côté, je pense que ce qui est important de saluer, c'est cette avancée-là qu'on va faire où la population va faire ses gains. Il y aura sûrement un gain d'efficience, un gain d'accessibilité puis un gain de rentabilité une fois que tout va être terminé d'ici un an. Puis je dirais que je lèverais mon chapeau à cette belle avancée-là qu'on vient de compléter aujourd'hui pour tout le monde, la population en priorité et tous les intervenants. Merci beaucoup.
Merci à vous, Christine Laliberté. Dr Godin, il reste 30 secondes.
Bon, écoutez, je pense que le Dr Landry a bien éclairci la question des frais. Là. Ce qui est important, c'est ce que Mme Laliberté vient de dire. On va continuer à travailler ensemble. C'est la clé pour améliorer.
Mais allez-vous continuer de charger? Ce que je comprenais de votre position, c'est que vous n'étiez pas prêt du tout à laisser aller les frais d'administration, d'exploitation.
Les frais d'administration, les frais d'exploitation, on va devoir loger ces gens-là. Il y a quelqu'un qui doit payer cette facture-là. Et si c'était si rentable que ça, et c'était si cher payé, l'État aurait déjà tout rapatrié ça. L'important, c'est qu'il ne faut pas oublier que ça
va... L'État a de la misère à gérer.
Ça aura un effet sur l'accès, mais en même temps, je dirais que le fardeau de la preuve
revient aux médecins de démontrer que les frais d'exploitation sont justifiés.
Merci à tout le monde. Merci beaucoup.